Commentaire, Spinoza selon le cœur, troisième et dernière partie, une émission proposée par Raphaël Antoven. On dit souvent, c'est une phrase de Karl Jaspers, qu'en philosophie les questions sont plus essentielles que les réponses. Autrement dit, que le sens de la vie est de chercher sans trouver, que c'est le but qui nous oriente comme l'étoile du Nord, que c'est la quête qui compte. Bref, que si la philosophie est amour de la sagesse, elle ne l'est que pour autant qu'elle s'en garde. Ça s'appelle la métaphysique et vous n'en trouverez pas chez Spinoza, pour qui la philosophie n'est pas l'amour de la sagesse, mais la sagesse de l'amour. L'amour de la sagesse est d'une certaine façon épris d'une idée qu'il a forgée de toutes pièces avec ce qui lui manque. L'amour de la sagesse est un peu comme un exercice narcissique où la vie fait allégeance à la pensée et qui consiste à traquer un objet que son chasseur a d'abord mis hors de sa portée. La sagesse de l'amour, en revanche, est un art de la joie malgré le monde et ses horreurs, la joie qui donne sa chance à toute aventure et son sens à toute parole. Dans l'éthique de Spinoza, ce qui importe n'est pas tellement le but, mais la démarche. Celui qui regarde droit devant lui ne voit pas grand-chose et prend tout ce qui échappe à son regard pour autant de mondes parallèles. Celui qui, à l'inverse, marchant comme il respire, se promène sans but, devient le témoin favori de la réalité toute nue. Il est joyeux sans manquer d'être lucide et il ne juge personne, car la vérité dont il dispose comprend les erreurs qu'il entend. Vous pouvez toujours croire en Dieu, prendre les coïncidences pour des signes et même tenter de décrocher la lune, le réel s'en moque. Il est aussi tissé des tentatives que nous faisons de lui échapper. Rien n'existe au-delà de ce qui est. Le seul but est d'être heureux dans le seul monde qui nous est donné. Là où le bonheur n'est pas un lieu, mais un état dans lequel on se trouve dès qu'on est joyeux, c'est-à-dire quand le monde se donne à voir dans son ensemble et dans ses détails. La dernière fois, en compagnie de Robert Misrahi, nous avons continué à cheminer dans ce grand livre qu'est l'éthique de Spinoza, en nous demandant si l'amour de la vérité supposait qu'on abjure l'erreur, si on pouvait par la raison éviter le malheur, ou encore s'il était possible de nier le hasard et de fonder la liberté. Aujourd'hui, pour cette dernière émission en sa compagnie sur l'éthique, nous allons clore cette promenade en nous interrogeant sur les rapports du corps et de l'âme, sur la générosité, l'amitié, l'expérience de l'éternité, la mort, la béatitude et la vertu.
Voilà mon cœur, c'est là que ta main doit frapper, impatient déjà d'expier son offense. Au-devant de ton bras, je le sens qui s'avance. Frappe! Ou si tu le crois indigne de tes coups, si ta haine m'envie un supplice si doux, ou si l'instant trop vil, ta main serait trempée. Au défaut de ton bras, prête-moi ton épée.
La chose du monde à laquelle un homme libre pense le moins, c'est la mort. Et sa sagesse n'est point la méditation de la mort, mais de la vie.
Personne ne cesse de désirer ce qui lui est utile. Personne n'est donc déterminé par la nécessité de sa nature, mais seulement par les causes extérieures, à se priver d'aliments ou à se donner lui-même la mort. Ainsi, celui qui tire par hasard son épée et à qui un autre saisit la main en le forçant de se frapper lui-même au cœur, celui-là se tue parce qu'il y est contraint par une cause étrangère.
Il en est de même d'un homme que l'ordre d'un tyran force à s'ouvrir les veines, comme Sénèque, afin d'éviter un mal plus grand. Mais que l'homme fasse effort par la nécessité de sa nature pour ne pas exister ou pour changer d'essence, cela est aussi impossible que la formation d'une chose qui viendrait de rien. Et il suffit d'une médiocre attention pour s'en convaincre.
Qui ne pense pas à la mort ? Est-ce que c'est celui, parce que vous dites, l'homme libre ne pense pas à la mort, bon, mais celui qui ne pense pas à la mort, On pourrait considérer que c'est celui que Pascal appellerait l'homme du divertissement. C'est-à-dire, c'est celui qui passe sa vie à se distraire pour ne pas penser à la mort. Le père qui, voyant son fils mourir, va l'après-midi même chasser le sanglier pour avoir la tête ailleurs, n'est-ce pas ? Pour penser à autre chose, pour se distraire, pour se divertir, pour étymologiquement détourner son regard, n'est-ce pas ? Donc, on pourrait penser que celui qui ne pense pas à la mort, c'est celui qui s'attache toute la vie précisément à ne pas y penser, c'est-à-dire à penser à autre chose. Est-ce que, d'un point de vue spinoziste, celui qui passe sa vie à essayer de penser à autre chose, c'est-à-dire celui qui perd sa vie, d'une certaine façon, à essayer d'oublier qu'elle va s'achever, ne fait en somme que penser à la mort ? Et en retour, est-ce que ça voudrait pas dire que celui qui ne pense à rien moins qu'à la mort, eh bien, c'est celui tout simplement qui y pense tellement qu'il n'éprouve aucun besoin de penser à autre chose ?
Là, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord pour dire que celui qui pense à rien moins qu'à la mort est celui qui y pense le plus.
Celui qui se divertit, celui qui se distrait.
Mais c'est pas les mêmes.
Robert Misrahi.
Ce que vous présentez là, c'est l'individu qui ne veut pas penser à la mort, mais c'est l'individu empirique. C'est l'individu qui fuit la pensée de la mort.
Mais celui-là, il y pense tout le temps.
Celui-là, il y pense tout le temps, naturellement. Et il agit par crainte. Or, toute la morale de Spinoza, il faut prendre morale comme décrivant les conduites de éthique 4. L'éthique concrète, on va dire, toute l'éthique concrète de Spinoza consiste à dire ceci, n'agissez pas par crainte d'un mal, agissez toujours positivement par la poursuite d'un bien. N'agissez pas pour combattre un mal ou pour le fuir. N'agissez pas par crainte des sanctions, ou par crainte de la mort, agissez par désir d'accomplissement. Il dit pas exactement ce mot, mais c'est ce que ça veut dire. Agissez par la poursuite affirmative du bien, et non pas négativement. Ce qui veut dire que les personnes que vous avez décrites, que décrit Pascal comme étant l'objet du divertissement, ces personnes-là agissent par peur, par crainte. Ils fuient la mort. Ils ne pensent pas à la mort, c'est-à-dire qu'en réalité, vous avez raison, ils ne font qu'y penser, mais négativement, comme une crainte.
Ce que je vous demandais, en fait, c'est si celui qui pense tout le temps à la mort, c'est celui qui passe sa vie à ne pas vouloir y penser, est-ce que celui qui ne passe pas sa vie à ne pas vouloir y penser, c'est finalement celui qui n'y pense jamais ?
Tout à fait.
Mais quand on ne se divertit pas, pourtant, on a quand même la mort sous les yeux.
Oui, mais le sage est celui qui va construire sa vie. Il construit sa vie en sachant qu'il faut lui donner un contenu. Et ce contenu ne lui viendra pas d'une référence à la mort. C'est toute la différence avec les philosophies de la mort, que ça soit le bouddhisme, que ça soit l'existentialisme de Heidegger, que ça soit certaines théologies, toutes ces philosophies de la mort pensent que...
Ou même Jean Kelevitch,
absolument. Toutes ces philosophies pensent qu'une référence à la mort va donner un contenu à la vie. Il n'en est rien. La mort ne donne rien. La mort n'est rien. Elle est simplement la fin de tous les contenus.
Est-ce qu'un bon spinoziste, c'est un homme qui meurt en courant ? Il meurt en marchant, à la limite. Il meurt sans y avoir pensé.
Peut-être.
Je pensais à Raymond Aron. Pour tout vous dire, Raymond Aron expliquait de son vivant que la mort, il n'y pensait pas. Qu'elle arrivera quand elle veut et que voilà, bon. Et il disait ça après avoir eu une attaque cérébrale. Et quelques années plus tard, en octobre 83, il sort du palais de justice. Son chauffeur l'attend devant le palais de justice. Il remet sa montre à l'heure en regardant l'horloge du palais de justice. Il dit au journaliste, je crois que je suis arrivé à dire l'essentiel. Il était allé défendre Bertrand de Jouvenel. Il monte dans la voiture, il dit à son chauffeur au journal, le chauffeur démarre, et une minute plus tard, il était mort sur la banquette arrière. C'est un homme qui est mort sans jamais avoir pensé à la mort. Est-ce qu'on est chez Spinoza, là?
Il faudrait ajouter seulement, on serait complètement chez Spinoza si Raymond Aron avait décidé de construire une éthique sans référence explicite à la mort. Il faut que l'absence de référence à la mort soit non pas seulement une attitude concrète, d'indifférence, mais il faut que ce soit aussi une prise de position réfléchie et théorique. Il est vrai que l'expression « ne pense à rien moins qu'à la mort » semble plutôt inclinée vers l'attitude concrète, celle que vous avez décrite avec Aron. C'est ça, oui, vous avez raison.
Et est-ce que ça vient pas aussi du fait que la mort, l'idée de la mort finalement est une idée qui est de nature à provoquer en nous de la tristesse ?
Mais naturellement.
Mais il faut comprendre ce qu'il dit par tristesse finalement. Qu'est-ce que c'est la tristesse ?
Alors, vous savez que Donc l'essence de l'homme, c'est le désir, mais ce désir est un conatus.
C'est-à-dire un effort. Hein.
C'est un effort.
Le mot latin qui veut dire effort, c'est s'efforcer de. Hein.
Voilà, c'est un effort, c'est un dynamisme. Le désir est un dynamisme qui poursuit son accroissement. Son accroissement comparé, lui-même par rapport à lui-même, et c'est cette comparaison de lui-même par rapport à lui-même qui va être vécue comme joie. Alors, ce désir, cependant, se déploie, donc il va rencontrer des moments où, effectivement, la puissance s'accroît, mais naturellement et tout simplement, il va aussi rencontrer des moments où la puissance décroît.
J'entendrai par joie une passion par laquelle l'âme passe à une perfection plus grande.
Par tristesse, une passion par laquelle l'âme passe à une moindre perfection.
L'affection de la joie, je la nomme chatouillement ou hilarité.
L'affection de la tristesse, douleur ou mélancolie.
Autrement dit, Spinoza va tenter de rendre compte de toute la vie affective par le mouvement ascendant ou descendant de l'énergie du désir. C'est fabuleux, c'est une philosophie de l'unité. L'individu humain n'est que désir, mais ce désir peut, son énergie, en tout cas le désir, lui, est toujours là, mais son énergie peut s'accroître ou décroître.
Donc de la même façon que chez Spinoza, nul ne veut le mal volontairement d'une certaine manière, de la même façon que chez Pascal, tous les hommes cherchent le bonheur, même ceux qui vont se pendre, l'homme triste est sous la loi de son désir.
Ah oui.
La tristesse n'est pas une dépréciation du désir, n'est pas
une... Non, absolument. C'est une expression du désir, mais reconnaissons, une expression malheureuse, dommageable. Parce que il va appeler tristesse, en effet, toutes les atteintes à l'intensité du désir, toutes les atteintes au sentiment de puissance intérieure, ou, on dirait aujourd'hui, toutes les atteintes à l'ego. Mais le mot ego fige et arrête tout.
L'amour n'est autre chose que la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure.
La haine n'est autre chose que la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure.
Quant à l'amour que nous sentons pour qui fait du bien à autrui, nous l'appellerons penchant favorable.
Et indignation, la haine que nous sentons pour qui fait du mal à autrui. Si nous nous représentons une personne comme causant de la joie à un objet que nous haïssons, nous haïrons aussi cette personne.
Si au contraire, nous nous la représentons comme causant de la tristesse à l'objet odieux, nous aurons pour elle de l'amour. Le désir qui naît de la tristesse ou de la joie, de la haine ou de l'amour, est d'autant plus grand que la passion qui l'inspire est plus grande.
Celui qui se souvient d'un objet qui, une fois, l'a charmé, désire le posséder encore et avec les mêmes circonstances.
Si donc l'amant s'aperçoit de l'absence d'une de ces circonstances, il en sera attristé. Cette tristesse, en tant qu'elle se rapporte à l'absence de ce que nous aimons, se nomme regret. Celui qui croit être aimé d'une personne qu'il déteste sera combattu entre la haine et l'amour.
Plus grand a été l'amour, plus grande sera la haine.
Celui qui a fait du bien à autrui, soit par amour, soit par espoir de la gloire qu'il en pourra tirer, sera attristé si son bienfait est reçu avec ingratitude. La haine s'augmente quand elle est réciproque. Elle peut être détruite par l'amour.
Une même cause doit nous faire éprouver pour un être que nous croyons libre plus d'amour ou plus de haine que pour un être nécessité.
Nous nous aimons. Que nos espérances soient communes ainsi que nos craintes. Il n'y a qu'un cœur d'airain qui puisse aimer ce qu'un autre dédaigne.
Il s'agit plutôt d'un dynamisme, hein, d'un dynamisme vivant, existentiel, qui souhaite s'affirmer et qui est combattu, agressé, diminué par... justement, soit des événements imaginaires, soit des événements réels, en tout cas, il y a diminution de puissance. Ce qui est vécu à ce moment, c'est la tristesse. Mais la tristesse, comme la joie, joie et tristesse, vont s'exprimer concrètement par différents affects.
Dont il fait le tableau dans la troisième partie de l'éthique.
Voilà.
Mais prenons un événement qui est à la lisière de l'imaginaire et du réel. Un homme est amoureux d'une femme, Par exemple, la fille de son professeur de latin.
Oui.
La femme en question, lui, préfère quelqu'un d'autre.
Plus riche.
Plus riche. On raconte à dessein cette anecdote. Plus riche et qui lui offre un collier, paraît-il.
Voilà.
Non, on raconte à dessein cette anecdote parce que c'est ce qui est arrivé à Spinoza, manifestement. Oui. Il était amoureux de la fille de son professeur de latin. Qu'est-ce que le spinozisme propose dans ce cas de figure?
C'est un exemple excellent, central. Nous sommes en présence d'une passion.
Parce que Spinoza, lui, il a souffert, incontestablement.
Ah oui, nous sommes en présence d'une passion. Cette passion produit, là, de la souffrance. Et l'idée est de se transporter au-delà, grâce à la raison. Il raisonne, il se défait de cet attachement, finalement imaginaire, à cette femme qui, en fait, ne pensait pas à lui. C'était peut-être un attachement imaginaire. Il s'en défait et il se consacre au vrai bien. Il se met à écrire.
Quand on parle de Spinoza, on parle toujours de soi. C'est-à-dire de la façon dont on l'a lu, d'une certaine manière.
Tout à fait, oui.
Et du rapport qu'on a pu avoir avec lui en le lisant. Que ce soit un rapport de franc dégoût, peut-être la première fois où on se demande ce que c'est que ce truc, pour ensuite avoir éventuellement une illumination, un plaisir, une joie, dans le meilleur des cas. Bon. En passant à la cinquième partie, on a toujours le sentiment, enfin en ce qui me concerne, qu'on change véritablement de registre. D'abord, on change de vitesse. Puisque dans les quatre premières parties, on va de la connaissance du premier genre, donc imaginaire, on en a parlé, à la connaissance du deuxième genre, c'était une connaissance rationnelle, qui fait notamment les beaux jours de la troisième partie, par exemple, et de la quatrième aussi, bien sûr. Mais dans la cinquième partie, d'abord la vitesse d'exécution devient fulgurante, d'une certaine manière, et on a vraiment l'impression qu'on passe des passions tristes, de la douleur, du désarroi, de l'homme dans la cité, de la jalousie, de la haine, du désir mimétique, etc., etc., à un univers tout fait de clarté, tissé de lumière, qui nous conduit directement à la béatitude. Est-ce que vous confirmez ce changement presque de vocabulaire, de lexique chez Spinoza?
Non.
Non?
Non. Parce que
j'ai l'impression qu'on passe de l'ombre à la lumière, moi. C'est toujours ça.
Voilà. Mais, justement, on ne passe pas brusquement de la passion à la béatitude.
Non, mais on passe quand même, reconnaissez-le, de l'esclavage à la liberté. Quatrième partie de l'esclavage ou de la servitude, cinquième partie de la liberté.
Justement, les titres de ces parties-là sont erronés. Spinoza s'est trompé. Ah. Je plaisante, évidemment. Mais, en réalité, dans la quatrième partie, il n'est pas seulement question de la servitude. Il est déjà question, dans la quatrième partie, de la liberté. Puisque ça va s'achever sur la description de l'homme libre. Donc la liberté...
Le passage sur la mort se trouve dans la quatrième partie.
Dans la quatrième partie. Et surtout, il y a, dans cette quatrième partie, avant même les dernières propositions sur l'homme libre, avant, il y a une description de la nouvelle éthique concrète de Spinoza. Je signale en passant, dans la quatrième partie, la 18e proposition, éthique 4-18, Scoli. Dans ce Scoli de la quatrième partie, du cœur de la quatrième partie, c'est la proposition 18, Spinoza reprend tous les résultats de ses études antérieures, en montre l'avantage et nous décrit sa nouvelle morale. Il décrit la nouvelle vertu, il décrit la morale de l'éthique propre, il montre combien toute sa doctrine est utile à l'existence, il décrit une morale de la joie. Et c'est là où il montre que nul autre qu'un envieux ou qu'un dieu envieux ne peut en effet se réjouir de notre souffrance, donc que la joie est bonne. La vertu, c'est l'affirmation de la joie lorsqu'elle est active et souveraine. Pas la joie passive qui vient par hasard et par contre.
Là, on est déjà dans la liberté.
Joie, on est dans la liberté, dans la joie concrète. Il y a déjà une joie concrète acquise par la raison. Mais cette joie concrète acquise par la raison, elle est une joie qualitative. Elle est un ensemble d'affects positifs. Il y a une intuition de soi et déjà un accord avec soi-même. On n'est pas encore tout à fait dans l'éternité, mais on est déjà dans l'indépendance et l'autonomie. Par conséquent, lorsqu'on va passer ensuite à l'éternité, c'est vrai que la vitesse va s'accroître. Ça va aller beaucoup plus vite, ça va être très très intense, très vite. Et
on va même à une vitesse absolue.
Oui,
ça va à la vitesse de l'éclair.
Oui, ça va très très vite. Et à ce moment, il n'y a pas rupture avec le contenu de la doctrine qui a précédé, mais il y a nouveau climat.
Une sorte de célérité nouvelle, non?
Célérité nouvelle, et puis joie profonde. Il y a cette fois une joie profonde. C'est pas seulement la joie de vivre, c'est pas seulement la joie de l'amitié, la joie du citoyen, la joie de l'homme qui jouit intelligemment de son confort matériel. Tout ça a été acquis en éthique 4. C'est pas la joie du libre citoyen mesuré, mais heureux de vivre. C'est une joie encore plus profonde, c'est une voie qui va concerner notre rapport à la totalité de l'être.
En même temps, dans la cinquième partie, il pose quand même, au début de la cinquième partie, que tant que l'homme n'a pas une connaissance accomplie de ses passions, ce qu'il a de mieux à faire, c'est de concevoir une règle de conduite, parfaitement droite, fondée sur des principes, de la déposer dans sa mémoire, d'en faire une application continuelle au cas particulier, bref. Il propose également, dans la cinquième partie, une éthique pour l'homme qui ne serait pas de ces belles réussites difficiles autant que rares, c'est-à-dire pour l'homme qui n'accéderait pas à la béatitude, d'une certaine façon. Donc, il y a un espèce de spinozisme souterrain ou un spinozisme de garage qui serait une façon, finalement, de se conduire au mieux, faute d'être béat. Il envisage cette hypothèse. Est-ce que Spinoza, dans la cinquième partie, ne fait pas deux choses à la fois, c'est-à-dire, un, il montre la voie qui conduit à la béatitude, et deux, comme il sait que finalement, de béatitude, nous ne sommes point capables, il explique ce qu'il faut faire faute d'une béatitude.
Je crois pas.
Je savais que vous ne seriez pas d'accord avec ça.
Je crois pas, je suis pas d'accord. D'abord, je croirais entendre Deleuze parler d'un spinozisme de garage. Non, la proposition 10, vous faites allusion à la proposition 10, elle n'est pas un spinozisme du pauvre, qui consisterait à dire...
Spinozisme du non-sage, si vous voulez.
Oui, c'est-à-dire du non-spinozisme. Non, elle consiste à dire ceci, je crois, elle est méthodologique et non pas prescriptive. Elle est médiatrice et non pas alternative.
C'est-à-dire en attendant d'eux ?
Elle est pour, pas même en attendant qu'il serait passif, mais pour.
C'est pas une morale par provision.
C'est pas une morale par provision. Ça consiste à dire ceci. Spinoza dit qu'il est très conscient de la difficulté. Il sait que tout l'effort de la raison ne trouve sa force que sur du désir, mais même ça, c'est très, très difficile. Alors, ne nous décourageons pas. D'abord, commençons par adopter une certaine attitude concrète. Et c'est sur la base de cette attitude concrète qui n'est simplement que propédeutique.
Donc elle est préparatoire, vous voulez dire.
Elle est préparatoire à la mise en œuvre de la raison, si jamais ça n'avait pas été achevé à la fin de Éthique 4, préparatoire à la mise en œuvre de la raison, et par conséquent, préparatoire à l'entrée dans la béatitude. Car après la proposition 10, il y a d'autres propositions qui expliquent que nous pouvons toujours mettre de l'ordre dans nos affects. Je crois même que c'est la proposition 10 qui dit ça. Nous pouvons toujours mettre de l'ordre, un ordre conforme à l'entendement, mettre dans nos affects un ordre conforme à l'entendement. C'est-à-dire, nous pouvons toujours établir la lumière en nous. Commençons peut-être par prendre de bonnes habitudes concrètes, mais nous pouvons toujours nous connaître, parce que ça appartient à la définition même de l'affect. C'est pourquoi j'insistais tout à l'heure. L'affect est une conscience. Même quand il est passif, il est une conscience. Une conscience pourra devenir une connaissance.
Supposez que nous ayons devant les yeux ce principe que notre véritable intérêt, notre bien, est surtout dans l'amitié qui nous unit aux hommes et les biens de la société. Et ces deux autres principes, premièrement que d'une manière de vivre conforme à la droite raison naît dans notre âme la plus parfaite sérénité, et en second lieu que les hommes, comme tout le reste, agissent par la nécessité de la nature. Il arrivera alors que le sentiment d'une injustice reçue et la haine qui en résulte ordinairement n'occuperont qu'une partie de notre imagination et seront aisément surmontés. Si la colère qui excite en nous les grandes injustices ne peut être aussi facilement dominée, elle finira pourtant par être étouffée. C'est encore de la même façon qu'il faut méditer sur la bravoure pour se délivrer de la crainte. Il faut passer en revue et ramener sans cesse dans son imagination les périls auxquels la vie de tous les hommes est exposée, et se redire que la présence d'esprit et le courage écartent et surmontent tous les dangers.
Mais n'empêche que Spinoza dit quand même que faute de savoir, il faut ordonner son imagination. Et même se donner des principes. Opposer la bravoure à la haine, opposer l'amitié à la rancune. Il dit à un moment, celui qui a été mal reçu par sa maîtresse n'a plus l'âme remplie que de l'inconstance des femmes, de leur trahison et de tous les défauts qu'on ne cesse de leur imputer. La tentation est grande de se dire qu'il pense à lui-même. Mais revient-il chez sa maîtresse et en est-il bien reçu? Tout cela est oublié. Le fait qu'il prenne cet exemple montre bien que Spinoza continue quand même d'opposer à une passion triste une passion qu'il est moins, une passion joyeuse, en expliquant que, bon, voilà, essayons autant que faire se peut, autant qu'il est possible, autant qu'il est en nous, de remplacer ce qui nous chagrine par ce qui nous réjouit, non?
Oui, là je crois que vous avez raison, c'est-à-dire que cette proposition, c'est la proposition, dis-je, je crois, n'est-ce pas, à laquelle vous faites allusion, elle dit c'est les deux choses, elle propose à la fois une méthode, pour celui qui va parvenir à la béatitude, mais peut-être aussi, et vous avez peut-être finalement raison, elle propose aussi une méthode pour ceux qui n'y parviendraient pas. Vous avez peut-être raison, vous avez quand même bien vu que, il dit quand même, oui, si vous n'êtes pas encore pleinement rationnel et autonome, essayez au moins d'adopter, de faire des associations d'images, essayez de vous inspirer autrement. Alors là, il s'adresse à tous ceux qui ne parviendraient pas. C'est quand même vrai.
Mais est-ce que ça expliquerait à ce moment-là le passage à, dans l'ordre de l'accélération, peut-être à une accélération encore supérieure, à partir de la proposition 11 de la cinquième partie, qui est le moment véritablement où cette fois-ci on rentre dans le seul amour de la liberté, où là on s'adresse véritablement aux sages. Et qu'en somme, sur les 42 propositions de la cinquième partie, ce trésor absolu de l'esprit humain et du cœur humain finalement,
absolument,
on pourrait dire de Spinoza que l'esprit c'est l'idée du cœur, ce trésor absolu de la cinquième partie, cette merveille, commence par s'adresser à qui n'en est pas capable, pour ensuite peut-être donner sa chance aux rares élus, aux happy few qui s'en sortiraient. Comment ça?
Oui, cela consiste aussi à dire qu'il n'y a pas d'exclus. Ça consiste à dire aussi, le sage qui est en train de construire cette doctrine et qui va vous conduire vers l'éternité, il n'oublie pas les difficultés concrètes et ceux qui devraient peut-être utiliser d'abord une autre voie, plus empirique. Il n'oublie pas l'empiricité du grand nombre, mais finalement il conclut que la suite va concerner tout le monde. La suite va quand même concerner tout le monde, mais il est vrai que on est à partir de 11, en effet, on est dans une intensité tout à fait nouvelle. Remarquons une chose, c'est que ces réserves sur celui qui n'y parvient pas sont dans la partie 5, c'est-à-dire après que ait été établie dans la partie 4 la nouvelle morale. Et au moment où il établit la nouvelle morale, c'est-à-dire dans les 4 premières parties, il ne fait jamais de réserve. C'est-à-dire qu'il sous-entend que tout le monde peut accéder à cette nouvelle morale, à cette nouvelle éthique qui est sans morale, qui n'est pas une éthique de la crainte, mais une éthique de l'affirmation, qui n'est pas une éthique du tragique, mais une éthique de la joie. Cela, tout le monde peut y atteindre.
De la générosité, de l'altruisme.
Voilà, de l'amitié, etc. Tout le monde peut y atteindre parce que il suffit pour cela, d'une part, de prendre conscience de la force de son désir, qui est en tout, à chacun, et d'autre part, de mettre en œuvre la puissance de sa réflexion, qui est également en tout, à chacun. Si quelqu'un veut, il peut. C'est ça les 4 premières parties. Ensuite, il va proposer d'aller plus loin, et là, il va dire, là, peut-être que ça va être un peu plus ardu. On est un peu plus haut dans l'ascension. Ça va être un peu plus ardu. N'hésitez pas. Vous avez déjà la 4e partie. C'est déjà bien. C'est une éthique nouvelle. Ça serait bien que la population qui nous entoure atteigne à cette 4e partie. Mais si vous ne pouvez pas aller plus loin, bon, peut-être plus tard. Mais maintenant, moi, je dois continuer. Et il continue. Et il sait que cela est possible et accessible. Ne nous laissons pas terroriser par Alquier ou son fantôme, qui disait que, en somme, quand il disait qu'il ne comprenait pas, il disait « je ne comprends pas la béatitude ». Ce qu'il voulait dire, c'est ceci, vous n'y parviendrez pas, c'est pas possible. C'est le pessimisme ambiant. Justement, c'est contre quoi lutte et contre quoi nous devrions lutter avec lui, contre quoi lutte Spinoza.
C'est marrant parce que Spinoza lutte autant contre l'optimisme que contre le pessimisme.
Il lutte contre un mauvais optimisme, contre un optimisme de facilité qui...
De l'espoir.
C'est ça. De l'espoir passif. Parce que là, c'est parcouru par un espoir profond. Même s'il ne le nomme pas, il fait la critique de la passion-espoir, qui est la passion passive au XVIIe siècle de la chrétienté. Mais il y a dans toute l'éthique un itinéraire tellement intense, et puis à la fin un but tellement intense et riche et lointain, que bien sûr cet itinéraire est parcouru par un dynamisme, une confiance, un espoir, l'espoir du sage de mettre en œuvre toutes les puissances de sa raison pour parvenir à cette indépendance joyeuse.
Il y a un passage extraordinaire dans lequel il fustige le principe de récompense. Ça c'est formidable parce que...
C'est la fin, oui.
Oui, on est 41.
42. Sauf erreur. La béatitude n'est pas la récompense.
Ah non, c'est juste après. Mais en fait, pensais au Scoli de 41.
Ah bon, dites-moi.
Vous voyez, la plupart des hommes pensent qu'ils ne sont libres qu'autant qu'il leur est permis d'obéir à leur passion, la piété, la religion et toutes les vertus. Vous souvenez?
Voilà, oui.
Alors, il y a ce passage quand même extraordinaire où Spinoza s'en prend au principe de récompense. Tiens, il se moque des gens qui se martèlent toute leur vie, qui se font souffrir, se retiennent de vivre, etc., etc., en expliquant que celui qui se prive de vivre de son vivant, c'est d'une certaine façon celui qui escompte que plus tard il percevra les dividendes de ses privations.
Ça, il sera récompensé.
C'est le désir de sainteté qu'on trouve d'ailleurs très communément sans même qu'il soit conscient. Quelqu'un qui, par exemple, accepterait de passer sa vie avec un homme ou avec une femme qui le ferait souffrir, d'une certaine façon, d'un point de vue strictement spinoziste, et peut-être le plus pervers des deux.
Oui, bien sûr.
Puisque c'est celui qui espère que, à terme, n'est-ce pas, sa sainteté, son dévouement, n'est-ce pas, après tout ce que j'ai fait pour lui, c'est la grande phrase, n'est-ce pas, après tout ce que j'ai fait pour lui, espère la récompense. Alors Spinoza dit, ce sont les mêmes qui, le jour où ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas de récompense, se mettent à faire n'importe quoi et se conduisent très mal, etc., etc. Et il dit, toute chose tellement énorme qu'elle mériterait à peine qu'on s'en occupe. Je suis pas de cet avis. C'est très important parce que est-ce que ça ne sous-entend pas que chez Spinoza, la vertu, finalement, n'a pas besoin de principe, n'a pas besoin de but, n'a pas besoin de récompense, est à elle-même sa propre fin?
C'est ce qu'il dit. La vertu telle qu'il l'entend, c'est la joie et l'autonomie. C'est l'autonomie de la joie, c'est la joie de l'autonomie. Elle est sa propre récompense, elle n'a pas besoin d'une récompense. Ce qu'il décrit là, et tel que vous l'avez décrit et développé, correspond par exemple à ce qu'on voit avec le cas des kamikazes. Les kamikazes se sacrifient pour une récompense.
Oui, il n'y a aucun courage dans le fait de jeter un avion contre une tour si on escompte une vie éternelle.
Si on escompte une vie éternelle, plus 70 vierges quand même.
Oui, mais ce qui pour l'éternité est un peu court. Hein.
C'est un peu court, oui. Alors, vraiment, Spinoza serait pantois devant ça, comme il est pantois devant toutes les théologies. Alors, il continue au contraire en disant, la béatitude n'est pas une récompense, elle n'est pas la récompense de la vertu, elle est la vertu même. Ce qui veut dire non pas que la béatitude prouve qu'on est un homme de vertu, non, ça veut dire être un homme de vertu, c'est être un sage heureux et libre.
Personne n'a d'inquiétude ou d'anxiété que pour un objet qu'il aime. Et les injures, les soupçons, les inimitiés n'ont pas d'autre source que cet amour qui nous enflamme pour des objets que nous ne pouvons réellement posséder avec plénitude. Et tout cela doit nous faire comprendre aisément ce que peut sur nos passions une connaissance claire et distincte. Surtout, ce troisième genre de connaissance, dont le fondement est la connaissance même de Dieu. Car si cette connaissance ne détruit pas absolument nos passions comme passions, elle fait du moins que les passions ne constituent que la plus petite partie de notre âme.
De plus, elle fait naître en nous l'amour d'un objet immuable et éternel que nous possédons véritablement et avec plénitude. Et cet amour épuré ne peut dès lors être souillé de ce triste mélange de vices que l'amour amène ordinairement avec soi. Il peut prendre des accroissements, toujours nouveaux, occuper la plus grande partie de l'âme et s'y déployer avec étendue.
Qu'est-ce que Spinoza entend dans la cinquième partie par l'expérience de l'éternité?
Oui.
Ça, c'est la proposition 23. C'est comme très troublant. 23.
23.
Vous nous avez... sentons que nous sommes, nous expérimentons que nous sommes éternels, je crois.
Oui, c'est 23.
Et qu'est-ce qu'il entend quand il parle de connaissance intuitive, du troisième genre de connaissance?
Voilà.
Ces deux points-là sont essentiels.
C'est essentiel. Alors, on a trop souvent pensé, les commentateurs ont trop souvent pensé que la connaissance du troisième genre, c'est-à-dire la connaissance intuitive, était une connaissance en effet complètement différente de la connaissance rationnelle et qu'elle nous mettait en contact direct avec un autre monde. C'est-à-dire qu'ils interprétaient le terme de connaissance du troisième genre, ils l'interprétaient en des termes mystiques, comme si l'on était dans la mystique juive, chrétienne ou musulmane du Moyen-Âge. Or, il n'en est rien, parce que Spinoza donne les définitions. La connaissance du troisième genre, elle est définie dès la deuxième partie, comme vous savez, en 40 ou 42. Il définit la connaissance du premier genre, puis la connaissance du deuxième genre, puis il dit, à cela, j'ajoute une autre connaissance que j'appellerai science intuitive, et qui procède de l'attribut au mode.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qui sait intégrer la connaissance d'un mode singulier, c'est-à-dire d'un objet particulier. Par exemple, un morceau de toile, ou bien une table. La connaissance intuitive est celle qui, intuitivement, comprend bien que cette table s'intègre à l'infinité de la matière.
Et elle en fait autant pour les humains.
Elle en fait autant pour les humains. Tout humain s'intègre immédiatement à l'infinité de la matière et à l'infinité de la pensée.
Si vous êtes dans votre voiture,
c'est-à-dire que cette connaissance intuitive est une connaissance intuitive rationnelle. C'est la compréhension directe de l'insertion du fini dans l'infini.
Prenons un exemple. Si vous êtes dans votre voiture, c'est un embouteillage, vous êtes sur le périph un dimanche soir. Vous êtes pressé de rentrer chez vous, vous êtes de mauvaise humeur, dans sa voiture à ce moment-là. Bon, alors dans ces cas-là, il y a plusieurs choses à faire. On ferme les vitres de sa voiture pour échapper au pot d'échappement. On met la musique pour se construire une bulle, un univers clos. On est comme une monade, n'est-ce pas? On ne laisse rien entrer du monde extérieur. Et puis vraiment, on se sent l'origine de ses actions, c'est-à-dire qu'on est à la guerre comme à la guerre. C'est la loi de la jungle, c'est à qui arrivera le premier chez soi, on prend la bande d'arrêt d'urgence, etc., etc. On est au bord de l'anarchie. Bien. On peut aussi, quand on est pris dans un embouteillage, au lieu d'avoir le sentiment qu'en appuyant sur la pédale de l'accélérateur, on va impressionner son voisin, le doubler, lui passer devant, etc., etc., et arriver plus vite à ses fins, donc au lieu de penser à soi, on peut aussi avoir le sentiment que, par une vue synoptique ou panoptique ou panoramique de tout ça, on est comme une goutte de sang dans un grand organisme dont l'aorte est bouchée, c'est-à-dire le périphérique, et où finalement, on est parti d'un ensemble infini dont notre action est une composante infime. Est-ce que la connaissance du troisième genre, c'est ça?
Oui, vous l'avez très très bien décrit. L'exemple est fantastique parce que c'est exactement cela. C'est la compréhension immédiate intelligente. C'est la compréhension intelligente et rapide d'un phénomène rationnel quand même, le fait que la voiture fait partie d'un ensemble, que la circulation fait partie d'un ensemble, ou qu'elle est comme une goutte de sang dans un flux, cela est exprimable par des concepts, par des idées, par des déductions, par la raison. On peut l'exprimer par la raison. C'est ce que vous venez de faire. Or, dans la voiture, le conducteur intelligent va sentir immédiatement sentir, non pas un mystère, mais une vérité logique. La connaissance du troisième genre est le sentiment logique et immédiat, le sentiment immédiat et intellectuel, on va dire, d'une relation logique. Vous savez que dans les règles pour la direction de l'esprit,
donc de Descartes.
Oui, de Descartes.
Premier texte de Descartes, quasiment, de Genèse.
À un certain moment, il décrit la connaissance intuitive et il montre ceci, je crois, me souvenir. Il décrit une démonstration mathématique et il dit la connaissance intuitive, c'est à la fin quand on saisit la démonstration. La démonstration donne le résultat. Et le résultat, si on le saisit dans l'immédiat, intuitivement, on comprend. On comprend que que 2 et 3, c'est 5, on le comprend tout de suite. On le comprend par l'intelligence, et c'est en même temps intuitif, parce que on n'a pas besoin d'étaler du temps, le temps d'un raisonnement. Et c'est cela la connaissance intuitive de Spinoza. La connaissance intuitive...
Elle fait l'économie du raisonnement.
Elle fait l'économie du raisonnement, mais par la saisie d'une connaissance, et par la saisie d'une relation entre deux termes. C'est ça qui est extraordinaire.
C'est pour ça que ça va si vite dans la cinquième partie, en fait.
Voilà. Il faut soi-même également avoir enfin compris, après les quatre premières parties, enfin compris que nous sommes partis d'un tout, mais que nous avons à construire cette partie, et que ça contredira pas le tout.
Alors l'éternité chez Spinoza, l'éternité c'est pas la perpétuation de la vie.
Voilà, c'est pas la perpétuation de l'existence d'une âme, puisque nous n'avons pas d'âme. Nous ne sommes que conscience. Dès que le corps disparaît, la conscience du corps disparaît. Quand le corps disparaît, l'esprit disparaît, parce que l'esprit c'est tout simplement la conscience du corps. Par conséquent, l'éternité n'est pas l'immortalité. L'immortalité n'est qu'un concept imaginaire, montre-t-il. Alors l'éternité va être... Je pense, là c'est une simple hypothèse, la validité permanente d'une vérité. La validité permanente d'une vérité ou d'une valeur, validité permanente pour les autres humains, pour tous les humains, pour les autres humains après ma mort, ou après la mort d'un écrivain, d'un philosophe, d'un artiste, la pérennité de ce qu'il a fait va être son éternité. Je propose cette explication toute simple.
Et comment,
si on veut aller un tout petit peu plus loin, peut-être faut-il ajouter ceci, c'est que le sentiment d'éternité, c'est aussi tout de même le sentiment de sa propre validité permanente.
C'est ça, parce que comment est-ce que, si c'était la postérité par exemple d'un écrivain, nous ne serions pas tous éternels, or pour Spinoza nous le sommes tous d'une certaine façon, seulement tout le monde n'en fait pas l'expérience. Comment ferait-on l'expérience de l'éternité si l'éternité était seulement la postérité? L'écrivain ne fait pas l'expérience de sa postérité.
Oui, vous avez raison.
Sauf si c'est Victor Hugo et qu'il est célèbre de son vivant. Mais...
Ce qui veut bien dire que l'éternité c'est dans l'actualité. L'éternité est une certaine manière de se saisir, de saisir le monde, et se saisir dans l'éternité, c'est se saisir comme validité permanente, mais actuelle, comme actualité valable. C'est-à-dire que, vous voyez, nous sommes bien loin de la déréliction. Un individu conscient n'est pas un individu qui, en se pense comme n'ayant aucune valeur et étant abandonné. Au contraire, un individu pensant est quelqu'un qui est conscient de la valeur de ce qu'il a fait et de ce qu'il est et de la valeur permanente. C'est-à-dire que quand un mathématicien écrit une proposition mathématique, il est dans l'éternité. Mieux encore, le sage, c'est lorsqu'il déploie une sagesse. C'est-à-dire que tous peuvent être dans l'éternité. Mais, je crois que c'est proposition 36, il ajoute ceci. Pourtant, je crois qu'il y a un mot qui veut dire « pourtant ». Bien que nous soyons éternels depuis toujours, nous le sommes, c'est notre... Pourtant, tout se passe comme si nous apprenions seulement maintenant que nous sommes éternels et comme si nous venions seulement maintenant d'entrer dans l'éternité. Et il décrit là quelque chose qui ressemble, là c'est une métaphore, je vais prendre une métaphore, à une seconde naissance. La seconde naissance, c'est la prise de conscience par un individu empirique et qui se croit pris dans le temps. C'est la prise de conscience, à un certain moment, de son éternité. Il est au-delà du temps quotidien des activités. Il est dans un autre temps qui est un temps immobile et qui est celui de la permanence de la validité, mais qui est aussi permanence de la joie.
Mais est-ce que ça n'est pas non plus... le fait tout bête, que ce qui a eu lieu n'a pas pu ne pas avoir lieu. Et que par conséquent, chaque instant a eu lieu tel qu'il a eu lieu de toute éternité. Ce qui ne veut pas dire qu'il a été éternellement prévu qu'il aurait lieu. Ça veut dire que, on disait tout à l'heure que l'homme est contingent. L'homme est contingent, ça veut dire que l'homme peut naître à un autre moment que le moment où il naît. Enfin, son existence n'est pas nécessaire. Mais en même temps, le fait que Spinoza soit né à tel endroit plutôt qu'à tel autre, ou à telle date plutôt qu'à tel autre, une fois que ça a eu lieu, ça a, d'une certaine façon, la même nécessité que 2 et 2 font 4. Nous ne pouvons pas ne pas tenir pour également nécessaire ce qui a eu lieu et un théorème mathématique. Les deux sont également absolument nécessaires puisqu'ils sont. Est-ce que l'éternité ou l'expérience de l'éternité, ça n'est pas tout simplement le sentiment que ce que nous vivons, eh bien, de toute éternité, nous le vivons.
Ce que vous dites est sans doute vrai dans le Spinozisme. Ce qui s'est produit ne peut pas être changé, puisque c'est nécessaire. Mais le climat du Spinozisme, l'humeur de Benoît de Spinoza, ne serait pas une humeur à décrire existentiellement comme un poids, cette éternité inchangeable de ce qui a eu lieu.
Non, mais en même temps, c'est une façon de considérer que chaque instant, parce qu'il ne dure pas d'une certaine façon, donc chaque instant parce qu'il n'a pas un début et une fin, mais parce qu'il est sans durée, il est le premier et le dernier de son genre, comme dirait Jean Kelevitch, il est primultime. Chaque instant est en lui-même éternel, précisément parce que qu'est-ce qui est éternel ? C'est soit ce qui dure toujours, mais ça on a vu que ça marchait pas, soit ce qui n'a pas de durée, d'une certaine façon, ce qui n'a pas de temps.
Oui.
Est-ce que ça n'est pas la qualité de l'instant, l'expérience de l'éternité ?
Je crois pas que ce soit ça chez Spinoza. C'est-à-dire que ce que vous décrivez est une expérience importante, une expérience...
mystique.
Partagée, peut-être mystique. C'est l'éternité comme instant, tellement vécu fortement par Kierkegaard, où c'est tellement intéressant.
Ou par Nietzsche.
Voilà. Mais vous l'avez dit vous-même, là on est à la limite de la mystique, on n'est donc pas dans le spinozisme. L'éternité est un sentiment à la fois intuitif et réfléchi de notre existence. Mais le mot est si fort et si beau qu'il ne peut être que un éloge, sous la plume de Spinoza. Ça ne peut être que l'éloge de la prise de conscience d'un individu de sa validité lorsqu'il accède à la sagesse.
Ça s'appelle la béatitude, ça.
Ça s'appelle la béatitude, c'est la prise de conscience de la béatitude. La béatitude est hors temps. Elle est hors temps pour nous, hors temps pour les autres, pour nos successeurs. Mais elle est du vécu. Elle est hors temps, mais elle est du vécu. Alors, concrètement, pour quelqu'un qui ne serait pas spécialiste, on pourrait peut-être dire que c'est très proche. La description de l'éternité comme validité permanente d'une sagesse conquise, ou bien validité permanente d'un instant intense et exceptionnel, ça se rapproche. On peut dire que concrètement, cela se rapproche. Et comme pour le déterminisme tout à l'heure à propos de Spinoza, ne créons pas de faux débats. Ici, il y a, chez Spinoza, le fait de souligner la pertinence de la référence à une certaine éternité. Il dit d'ailleurs une certaine espèce d'éternité. Ce qui veut dire aussi que cette éternité peut nous mettre sur la voie d'un détachement. Le détachement du sage qui est non pas l'indifférence, mais l'indifférence aux événements empiriques de non-valeur. L'indifférence aux événements empiriques sans valeur, aux conflits sans valeur, aux désirs sans valeur, cette indifférence est dépassée vers un intérêt fondamental pour des joies vraies. Et si les individus accèdent à des joies vraies, on peut dire qu'ils donnent un sens à leur propre vie, ils donnent un sens à leur propre vie, et comme c'est une vérité universelle, ils donnent un sens à l'humanité. Et c'est l'humanité à ce moment qui devient l'amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour lui-même, c'est-à-dire l'amour de l'humanité pour elle-même.
Voilà, merci infiniment Robert Misrahi pour cette longue conversation sur Spinoza et son chef-d'œuvre, l'éthique. Alors je ne veux pas finir cette émission sans vous recommander un certain nombre de livres dont vous retrouverez toutes les références ainsi que d'autres sur notre site internet www.franceculture.com à la page des Vendredis de la Philo. Alors si vous voulez un cours sur Spinoza, achetez par exemple le petit livre de Deleuze, Spinoza, philosophie pratique, que vous trouverez aux éditions de Minuit. Si vous voulez un livre érudit, achetez l'ouvrage de Lorenzo Vinciguerra, Spinoza et le Cygne, publié chez Vrin. Si vous voulez un essai limpide, magistral et joyeux, achetez le dernier livre de Robert Misrahi, Spinoza, paru aux éditions Entrelacs.
Si vous voulez une traduction bilingue, achetez l'éthique aux éditions du Seuil, dans la version de Bernard Potras. Enfin, si vous voulez découvrir ce que la lecture de Spinoza produit de plus singulier, de plus original et parfois de plus drôle, alors je vous recommande l'œuvre entière de Clément Rosset et le beau livre de Nicolas Gaud dont nous avions parlé ici, qui s'appelle « L'art de la joie », paru chez Buchet-Chastel. Voilà, c'était commentaire sur l'éthique de Spinoza en compagnie de Robert Misrahi. Lecture des textes Anne Brissier et Georges Claes, réalisation Brigitte Bouvier et à la technique Annick Brien. Dans 3 semaines, changement de décor, puisque nous aborderons le premier chef-d'œuvre de Freud, l'interprétation des rêves, avec la psychanalyste Marie Moscovici. Mais tout de suite, la parole est à Emmanuel Laurentin pour la nouvelle fabrique de l'histoire.
Et de 10h à 12h sur France Culture, pourquoi tant d'histoires, histoire des idées, histoire de fiction et histoire tout court à 11h30. Vous...